C'est un élément clé du déconfinement, dépister les personnes présentant des symptômes et isoler les malades pour stopper la propagation du virus. C'est là donc qu'entrent en action les brigades d'anges gardiens, c'est le terme utilisé par le ministre de la Santé. Ce dispositif, baptisé Corvisan, existe déjà en région parisienne. Des volontaires se rendent au domicile des malades pour pratiquer des tests, dispositif qui va encore monter en puissance dans les prochains jours. En ce moment donc, de nombreux bénévoles sont en train d'être formés. C'est le grand format de ce 7 heures et il est signé Rémi Brancato.
Dans ce campus de formation de la PHP, l'assistance publique hôpitaux de Paris, dans le 12e arrondissement, le professeur Renaud Piarou, chef du service de parasitologie à la Pitié-Salpêtrière, accueille 50 à 100 nouveaux bénévoles chaque jour dans l'amphithéâtre.
Vous allez faire équipe avec le patient.
Les bénévoles iront convaincre les nouveaux malades de s'isoler à leur domicile.
Je ne sais pas, une personne a besoin de faire ses courses. Est-ce qu'on leur propose des solutions ?
Oui, la Croix-Rouge est partenaire. Ils vont faire les courses pour les gens.
Tester les malades et leurs proches, puis isoler pour Renaud Piarou, ce dispositif est indispensable pour éviter une reprise de l'épidémie avec le déconfinement.
Plus on arrivera à faciliter le confinement et plus on détectera de nouvelles chaînes de contamination, mieux ce sera.
Plus de 700 bénévoles ont été formés en 8 jours.
Ils ont déjà un planning bien chargé de visites.
Choisis le roi, Saint-Mandé.
Dans cette salle, Sarah Djellouli, volontaire, elle aussi coordonne les visites pour les nouveaux binômes. Un soignant qui dépiste et un non-soignant qui dialogue avec les familles.
Ils sont formés sur l'ensemble des gestes, évidemment le mais aussi, eux sont formés, mais ils forment aussi les patients quand ils sont à domicile sur les gestes barrières.
Les profils sont variés. Camille Berthol est étudiante en orthophonie, Tayeb Tounsi, chargée de communication.
Je me sentais bête en fait de rester chez moi alors que je savais que j'avais la possibilité d'aider.
Ça faisait quelques mois que j'étais au chômage, mais c'était le bon moment d'utiliser son temps libre puisque la recherche d'emploi en ce moment, c'est pas forcément le plus efficace.
Et il faudra aussi faire remonter des informations pour Martin Hirsch, le directeur de la PHP.
On a besoin d'avoir la connaissance de tous les cas, non pas pour fliquer les gens, mais pour pouvoir aller au-devant d'eux et les aider.
65 équipes seront en place vendredi en région parisienne.
Merci beaucoup de participer.
Il y en aura 200 à 300 dans les prochaines semaines.
Un reportage de Rémi Brancato. Le suivi des malades, article clé aussi de la prolongation de l'état d'urgence sanitaire, voté hier soir au Sénat. Les élus ont approuvé la création d'un système d'information pour identifier les personnes infectées et leurs proches, mais avec des garde-fous. Le texte doit être débattu demain à l'Assemblée en vue d'une adoption définitive d'ici la fin de la semaine. Le déconfinement se fera également sur la base de la couleur de votre département. La carte publiée hier soir a suscité l'espoir des habitants des Hauts-de-France. Les 5 départements de la région sont ainsi passés du rouge à l'orange. Mais le directeur du SAMU du Nord, également chef des urgences au CHU de Lille, Patrick Goldstein, reste prudent.
On ne peut pas dire qu'il n'y a plus de virus. Le virus, il est toujours là. Le virus, il circule. Il circule moins. Ce que nous voulons tous, c'est que le virus ne circule plus. Et ce que nous voulons surtout, également, c'est trouver des médicaments actifs et un vaccin qui viendra probablement, mais pas tout de suite. Dans l'attente de cela, il faut diminuer la circulation de ce virus. Et pour diminuer la circulation de ce virus, ce qui est essentiel, même en dehors de déconfinement, il va falloir être très raisonnable et respecter un certain nombre de mesures que nous connaissons absolument tous. Si nous ne sommes pas raisonnables, si globalement nous ne sommes pas raisonnables, comme nous l'avons été pour le confinement, qui a quand même été une vraie réussite citoyenne, hein. C'est à la fois une réussite de santé et une réussite citoyenne. Ça a sauvé des vies, ce confinement. Si nous sommes aussi raisonnables pour le déconfinement, je suis optimiste. Si nous ne sommes pas raisonnables et collectivement raisonnables pour le déconfinement, je suis inquiet.
Un témoignage recueilli par Julien Langlais. 27 départements restent classés en rouge ce matin. L'Île-de-France et une partie de l'Est de la France. 24 sont en orange et 50 en vert. La tension dans les services de réanimation continue de baisser au niveau national avec 266 patients en moins au cours des dernières 24 heures. 3430 malades restent dans un état grave. Et avec 330 décès supplémentaires, le bilan global dépasse les 25 500 morts en France.
Il est 7h06 et l'autre clé du déconfinement, Agnès, ce sont les transports en commun.
Difficile de prédire quelle sera l'affluence à partir de lundi prochain dans les trains, les bus et les métros. Des lignes pourront être fermées si les règles sanitaires ne sont pas respectées, a menacé hier soir le secrétaire d'État au transport Jean-Baptiste Djebbari. À la SNCF, des mesures exceptionnelles sont mises en place, avec notamment via l'application. Vous pourrez connaître la veille de votre départ l'affluence dans le train que vous allez prendre. Nous reviendrons en détail sur ces mesures dans le le journal de 8 heures. Pas de signe de reprise pour les ouvriers de Peugeot à Sochaux. Le site est à l'arrêt, faute de débouchés, les concessions restent fermées. Ce qui inquiète les habitants de ce territoire du Doubs, très dépendant de son industrie automobile, comme a pu le constater Jérôme Val, qui s'est rendu sur place. Reportage.
Sochaux est une ville à l'arrêt, à l'image de ses immenses parkings déserts sur le site de Peugeot. L'usine ne tourne plus, aucune voiture n'a été produite depuis le 17 mars.
Oui, on est un peu inquiet quand même, on ne sait pas où ça va aller. Quoi.
Ça m'inquiète un peu, oui, bien sûr, c'est effectivement un problème.
La crainte des habitants de Sochaux, alors que PSA reste l'un des principaux employeurs de ce bassin du Nord-Franche-Comté, 7000 salariés en CDI et des intérimaires, ils seront les premières victimes de la crise, prévient Éric Pelletier, délégué Force ouvrière.
Depuis, l'arrêt des lignes, il y a déjà 400 contrats qui n'ont pas été renouvelés sur les 2000, donc il reste grosso modo 1600 intérimaires avec des contrats qui, la direction l'a déjà dit, seront suspendus.
Victimes aussi les sous-traitants du constructeur automobile.
Tout ce qui concerne PSA est arrêté, il n'y a plus aucune machine qui tourne.
Jean-Pierre Moret est à la tête d'une société qui produit des pièces pour le refroidissement des moteurs, 100 personnes sur le site d'Etup à côté de Sochaux.
Actuellement, au mois d'avril, on a fait un chiffre d'affaires de moins 70%. Je suis assez inquiet parce qu'il y aura de la casse. Moi, j'espère pas, en tout cas, malheureusement, que l'activité ne redémarrera correctement avant le mois de septembre.
Et pour ce patron, il va falloir se réinventer. Il a donc décidé de créer une nouvelle société spécialisée dans l'impression 3D.
Sochaux, une ville à l'arrêt, c'est à lire aussi sur franceinter.fr. Se réinventer, c'est aussi le plaidoyer de Nicolas Hulot qui signe une tribune sur France Inter en partenariat avec Le Monde et Brut. Le temps est venu, estime l'ancien ministre de l'écologie, de préparer la société au monde qui vient. Célia Kiré.
Faire tomber les dogmes qui ont fondé le monde d'avant. En priorité, Nicolas Hulot demande un fonds européen de relance de plusieurs milliers de milliards d'euros pour renforcer les États et réduire leur dépendance au marché mondial. Ensuite, à un niveau local, il propose une dotation de plusieurs milliards d'euros pour les collectivités territoriales. Elles pourront ainsi rénover les bâtiments publics, diversifier l'agriculture et développer les transports. Troisième mesure et nouveau dogme, passer du libre-échange au juste échange. Cela suppose de mettre fin à certains accords comme le CETA et de sanctionner les États qui ne tiendraient pas leurs objectifs climatiques. Ce plan passe également par une relocalisation de l'économie. Des chantiers de bus ou de métro seraient ainsi réservés à des entreprises qui produisent en Europe. Enfin, comme la plupart des ONG et comme le Haut Conseil pour le climat, la Fondation Nicolas Hulot exige que les milliards d'euros accordés aux entreprises ne le soient pas sans contrepartie sociale et environnementale.
Nicolas Hulot, qui sera tout à l'heure à 8h20, l'invité du grand entretien d'Inter. Le temps est-il venu aussi de rouvrir les plages? Ils sont de plus en plus nombreux à demander un accès moins restreint aux forêts, aux parcs et au littoral. Une bouffée d'oxygène après 7 semaines de confinement. Le maire de Saint-Pierre-dans-l'Hérault, en Charente-Maritime, est lui bien décidé. Christophe Sueur rouvrira les plages lundi prochain.
Notre jardin public, notre espace de vie commun, nos lieux de discussion en famille et nos balades se font sur la plage. C'est pour cela que j'ai pris cette décision d'écrire au président de la République. Je vais le faire le 11 mai, prendre un arrêté municipal autorisant l'accès aux plages. La réponse que l'on m'a apportée du service de la préfecture, c'est une crainte d'une arrivée de population, mais nous l'avons déjà habituellement tout au long de l'année sans Covid-19. Et si j'ai bien compris, le respect des 100 km, on n'a aucune crainte à avoir des habitants de la région parisienne, puisque de toute façon, ils ne pourront pas se déplacer. Et quand on parle de ruées, il y aura certainement autant de ruées dans les grandes surfaces, sur les parkings, ou en particulier dans les galeries marchandes, voire même dans les massifs forestiers. Le bord de plage, ce n'est pas que du loisir. C'est aussi une activité de pêche, de circulation, de respiration, et ça fait partie de notre quotidien. Il y a une grande partie de la population française qui vit à moins de 100 km de la mer, et c'est un choix de vie. On est capable, avec les règles de distanciation, de préconisation, de pouvoir circuler tout en étant attentif à ce que l'on doit faire.
Le maire de Saint-Pierre-d'Oléron avec Céline Asselot. Et puis Emmanuel Macron doit présenter aujourd'hui les grandes lignes de son plan destiné à sauver le secteur de la culture. Nous y reviendrons dans le journal de 7h30.
Il est 7h11, Agnès, tout un symbole en Chine avec la réouverture des écoles à Wuhan.
Épicentre de la pandémie, la ville a fermé tous ses établissements scolaires il y a maintenant 3 mois et demi. Et aujourd'hui, ce sont les 36 000 lycéens de terminale qui retrouvent leur salle de classe. Correspondance à Pékin de Stéphane Pombrin.
Ils sont parmi les derniers lycéens de Chine à retourner sur les bancs de l'école. Les 36 000 élèves de terminale de Wuhan reprennent aujourd'hui les cours. Ils seront suivis progressivement par les autres élèves, les collégiens, puis ceux des classes primaires. Comme dans toute la Chine, c'est un protocole particulièrement strict qu'il faut respecter, comme l'explique ce responsable d'une école de Wuhan, Wang Shugang.
On a fait subir à nos 150 professeurs plusieurs tests, des tests nucléiques, des radios des poumons et des tests sérologiques. Tout le personnel, mais aussi les élèves, ont été testés avant la rentrée, plus de 700 personnes au total.
Après 3 mois et demi de fermeture, les écoles de Wuhan sont particulièrement surveillées. Chen Yanzhu est proviseur.
Nous avons fait appel à des équipes spécialisées pour désinfecter le campus. Et ce sera comme ça pendant plusieurs jours. Le matin, à midi, le soir, après la classe, il y a des inspecteurs du ministère de l'Éducation qui viendront vérifier.
Prise de température, port du masque obligatoire, distance de sécurité entre les élèves et emploi du temps aménagé. Cette rentrée scolaire est à l'image d'une reprise sous haute surveillance. Le bac est prévu début juillet. Pékin, Stéphane Pambrin, France Inter.
La pandémie qui s'installe en Amérique latine avec plus de 15 000 morts. Le Brésil est le pays le plus touché avec près de 8 000 décès et le pic est attendu dans les prochains jours. Et dans l'Hexagone, à l'heure où le déconfinement se prépare, comment vont nos ados? Ils ont 10, 12, 13 ans, vivent en zone verte à Pona, dans le Périgord, ou en zone rouge, en région parisienne. Et ils ont raconté à Mathilde Dehémy leur confinement.
La question les étonne.
Moi, ça va bien.
À quelques jours de reprendre l'école en Dordogne, Marie, 10 ans, a plutôt bien vécu son confinement.
J'ai un assez grand jardin, du coup je pouvais jouer dehors.
Même si les premiers jours ont été compliqués.
Quand il y a eu plein de personnes mortes, ça faisait peur, du coup je pensais à ce qui allait se passer dans l'avenir.
Bien sûr, ses amis, sa famille, sa maîtresse lui manquent et la vie d'après sera différente.
Se sentir moins libre.
Alexia, 12 ans, à Paris, a trouvé son rythme.
Ça ne me manque pas du tout, les réveils tôt le matin.
Elle a changé ses habitudes.
Je suis un peu plus intéressée au jonglage, ou à certains sports que je n'aurais jamais pensé avant.
Mais conserver l'essentiel, appeler ses amis, elle n'est pas sûre que son collège rouvrira avant l'été.
Ça va, ça me stresse pas trop. Si je passais le brevet ou le bac, ça me stresserait un peu plus, je pense.
Pour ces adolescents, le confinement a permis de se découvrir. Raphaël, 13 ans.
J'ai tenu le choc. Je sais m'occuper moi-même, tout seul. Donc ça, c'est assez pratique. Et je ne le savais pas avant.
Il ne retournera pas au collège, mais il a hâte de pouvoir sortir.
Le 11 mai, ça va être plus comme dans un film. Je sortais qu'une fois par semaine à peu près. De voir tous ces gens qui vont passer loin de moi avec des masques, ça va changer les mentalités des gens.
Raphaël a débuté un carnet de confinement, conscient de vivre un moment historique, dit-il. Conscient aussi que tout ne s'est pas aussi bien passé pour d'autres jeunes.
Un moment historique, justement, Nicolas, un musée en Autriche a commencé à collecter des dessins d'enfants pour raconter le confinement aux générations à venir.
Et France Inter, le Centre Pompidou et le Théâtre du Châtelet lancent aussi un appel à dessiner le printemps. L'espoir au printemps dessine comme Hockney. C'est du 5 mai au 21 juin. Plus d'informations sur franceinter.fr.